Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com, Nicolas Ducharme au micro. Je vous parle en ce 12 mars avec moi aujourd'hui pour cet épisode, comme d'habitude, Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage. Salut JF.
Bon matin.
Hey, salut Guillaume, ça va bien?
Ça va bien, vous, les gars?
Oui, JF, vous ne le voyez pas à la maison en train de boire un bon café. On en a besoin ce matin parce qu'on s'est couché plutôt tard hier soir pour écouter le troisième match du périple dans l'Ouest des Canadiens qui affrontait les Canucks. L'ami Guillaume, lui, qui s'est couché à 9h30 quand même. Donc, tu vois qu'il a gardé le beat du nightlife d'Ottawa. Là, tu es allé à Ottawa la semaine passée, en début de semaine, puis visiblement, tu t'es couché de bonne heure parce que tu as gardé ce beat-là.
Non, mais c'est le fameux lundi Amazon Prime qui a eu ma peau. Là. Parce que c'est les fameux matchs qui sont à l'horaire à 7h30, qui commencent à 7h50.
Ouais, ouais, ouais.
Avec les entrevues d'après-match et tout ça, tu sors de l'aréna finalement à peu près 45 minutes plus tard qu'on le fait d'habitude. Puis après ça, ben, tu sais, des nuits à l'hôtel, c'est pas la même chose que dans le lit à la maison. Fait que quand je suis revenu hier soir, j'ai essayé, là. J'étais sur le divan, je me disais, je vais attendre le début du match et tout ça. Puis vers 9h15, 9h20, je me suis rendu compte que ce serait impossible. Mais j'aurais peut-être pu toffer jusqu'au premier but. Ça aurait été. J'ai vu que ça avait été assez tôt dans le match. Donc ça aurait peut-être pu. J'aurais peut-être pu le voir, là, mais j'aurais pas toffé bien plus longtemps.
Si tu m'avais dit que tu étais redescendu de Canada chez toi après le match de lundi, j'aurais compris que tu sois fatigué, mais là. Non, j'ai de la misère à accepter ton explication.
C'est drainant, là. Les allers-retours en voiture d'Ottawa à Canada, messieurs. Jean-François, c'est quelque chose, mais deux fois par jour, c'est beaucoup d'auto, c'est ça. Ben, je pense que j'étais tanné.
Préparez-vous, parce que si ça continue à jouer comme ça du côté des sénateurs, du hockey de série, vous allez aller en voir à Ottawa parce que ça va très bien chez les sénateurs. On va en parler aujourd'hui à l'émission. On va parler de tout ce que tu as... Parce que tu as parlé à beaucoup de monde là, du côté d'Ottawa, là, donc on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, entre autres par rapport à la date limite des transactions. On va parler un petit peu de ça. On va parler justement des Canadiens, ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ce voyage-là dans l'Ouest qui est pas parfait, mais est pas mauvais du tout. Jusqu'à présent, on était cherché, on a une fiche de 500, là, si on veut, là, une victoire, une défaite en prolongation, une défaite. On va parler de tout ça. On va parler aussi de ce qui se passe chez les Panthers et les Maple Leafs. Donc, c'est ça aujourd'hui à l'émission. Chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur à peu près tout ce qui peut exister comme plateforme de diffusion de balado, entre autres Apple, Spotify et YouTube. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver et abonnez-vous comme ça. Là, ben là on est revenu sur le beat habituel des épisodes chaque mercredi, mais bon, les séries éliminatoires qui vont arriver assez rapidement, puis là, ben, à partir de là... On sait, les gars, on se parle d'habitude là, dans un placard ou quelque chose comme ça en deux voyages d'avion. C'est toujours le fun, mais ça veut dire que bon, les balados vont être un peu moins réguliers ou du moins l'heure et le jour où les balados sont disponibles un peu moins réguliers. On va revenir sur le match des Canadiens d'hier. Victoire contre les Canucks. Soyons francs, les Canadiens en avaient besoin parce que tu es dans un voyage dans l'Ouest. Tu veux surtout pas commencer ça avec trois défaites, une possibilité de quatre. Alors qu'en avant, ça brasse quand même dans la course aux séries. Tu sais, les Blue Jackets qui semblaient quand même dans un beau siège, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ben hier, on s'est incliné. Soudainement, ça bouge rapidement. Les sénateurs qui connaissent du succès, tu peux pas te permettre, c'était les Canadiens, de laisser passer une opportunité de monter. Puis laisser surtout, parce que là, on sait, les quatrièmes ans, jusque-là, on avait une course pour deux positions pour les séries. Mais là, c'est en train de devenir une course pour une seule position. Donc, ça a fait du bien hier à JF, la victoire du CH.
Oui, il n'y a pas de doute, mais d'ici la fin de l'année, là, c'est pas compliqué. Le CH doit gagner un minimum de deux matchs sur trois environ là, pour se maintenir en vie pour une place en série. Victoire 4-2 contre les Canucks, mais je trouve que c'est un match qui illustre beaucoup les dernières rencontres, c'est-à-dire la production d'un seul trio. C'est encore une fois Nick Suzuki, Juraj Slafkovský, Cole Caulfield qui ont mené cette équipe. C'est un petit peu inquiétant, Nick, parce que pour vouloir s'accrocher à l'espoir d'une présence en série, tu as besoin d'attaques en provenance de quatre trios. Puis pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Là. Dans les six derniers matchs, pas les six derniers matchs, mais les six dernières victoires du CH, C'est 15 points pour Suzuki, 5 buts, 10 passes. 8 points pour Caulfield, 5 buts, 3 passes. 8 points pour Slafkovski, 4 buts, 4 passes. Et après ça, le reste de l'équipe, c'est 7 buts chez les attaquants au total. Donc, tu en as 14 en provenance du premier trio, puis 7 en provenance des trois autres trios. Là-dedans, il y en a 2 de Patrick Laine, mais Laine est tous forts depuis quelques jours, donc il est absent. Résultat, rappel de Joshua Roy, on brasse les cartes, on essaie de trouver un petit peu de punch. Il y en a beaucoup, chez les partisans du Canadien, il y en a beaucoup qui se plaignaient ou qui étaient déçus de voir Kent Hughes, Jeff Gorton choisir le statu quo à la date limite. Je continue de croire que le statu quo, c'est un signe qu'on croyait en cette formation, qu'on voulait offrir une chance, mais le revers de la médaille, il n'y a pas eu de renfort non plus. Peut-être qu'un deuxième centre d'expérience aurait donné un coup de main. Là, on voit qu'on a une certaine jonglerie. On a Alex Escapade Newhook qui patine, mais qui génère peu d'attaques, fidèle à son habitude. Donc, c'est lui en ce moment qui pivote le deuxième trio. C'est un petit peu mince là, dans une période aussi importante de l'année.
J'ai une question, par contre. As-tu perçu une différence dans le système de jeu de Martin Saint-Louis, dans la façon où on joue, où on réalise, écoute, que Kirby Dach n'est plus là, qu'il manque un certain équilibre offensif qu'on avait, même si Dach n'a rien cassé offensivement cette année, mais qu'à tout de moins, on avait un équilibre qui fonctionnait. Et là, on réalise que, ben écoutez, il va peut-être falloir jouer plus défensivement un peu, commencer à jouer du hockey de série tout de suite, parce que si on regarde jusqu'à présent dans ce voyage-là dans l'Ouest, on a donné 3 buts aux Oilers, mais il y en a un là-dedans qui est en prolongation. Un seul but aux Flames, malheureusement, on n'en a pas compté. Puis hier, si ça n'avait pas été d'une remontée, puis bon, une pénalité un peu douteuse à David Savard, le Canadien avait mené 3-0 pendant une bonne partie du match. Est-ce qu'il y a eu un resserrement défensif du côté du tricolore?
Ben, il y a un resserrement défensif, oui, mais je pense que les rivaux du CH, à part les Oilers, les Flames restent une équipe archi-défensive. Les Canucks, dernièrement, ne marquent tout simplement pas de but.
Non, ouais.
Hier, par contre, ils ont donné une petite frousse là, avec 2 buts en 3e période. Oui, c'est vrai que défensivement, le tricolore offre du bon hockey. Heinemann, Evans, Armia, sur papier, reste peut-être le 4e trio, mais en réalité, depuis quelques matchs, on parle plus d'un 2e trio. Heinemann, Evans, Armia donnent rien défensivement, mais à l'attaque, ne marque pas non plus. Là. Armia, c'est aucun point depuis le retour de la pause. Heinemann, aucun point également. Puis Jake Evans, un but. Christian Dvorak donne du bon hockey défensivement. Même chose pour Josh Anderson, qui amène beaucoup d'énergie. Anderson a 2 buts à ses 8 derniers matchs. Donc, on ne parle pas non plus là, d'une grande production offensive. Puis ensuite, bien, tu as l'espèce de patate chaude. Maintenant que tu as Laine qui n'est pas en santé, de Michael Pezzetta à qui on donne 5 minutes environ. Donc, les deuxième, troisième trios n'ont plus une réelle identité. On veut maintenir le trio Dynamon, Evans, Armia, et je comprends parce qu'ils ont donné du très bon hockey depuis le début de l'année. Mais quand après ça, tu donnes seulement 5 minutes à un de tes alliés, Martin Saint-Louis se retrouve rapidement à court de munitions.
Et il n'y a pas vraiment de renfort. Bon, là, quand tu t'es parlé, on a rappelé Joshua Roy, on a retourné au Winbeck du côté du Rocket de Laval. Il n'y a pas un roi, ça reste à prouver encore ce qu'il peut faire dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas un joueur qu'on pourrait... T'sais, on parle souvent, il y a des joueurs qui, soit qui sont sur tes deux premiers trios dans la Ligue nationale ou sont dans la Ligue américaine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Ce n'est pas des joueurs de rôle, c'est non, soit de l'attaque...
Je pense que c'est le cas pour Joshua Roy. Là. C'est un gars de talent, c'est un gars intelligent qui était dans une bonne séquence avec le Rocket. Mais là, tu lui demandes de patiner au sein d'un top 6 en fin de saison. C'est une marche qui est élevée. T'sais, le nouveau venu en ce moment, c'est Joshua Roy. Si tu regardes à l'autre bout de la 4-17, Guillaume, toi, t'as fait le chemin une couple de fois. Là. Et les nouveaux venus ont pour nom Dylan Cousins et Fabien Zetterlund. C'est pas le même impact quand tu veux changer la dynamique d'une équipe. Les deux équipes avaient probablement pas les mêmes ambitions aussi à la date limite, mais... Écoute, Joshua Roy, c'est un premier match honnête contre les Canucks. Là, j'ai pas détesté son match, mais offensivement, si c'est pas du premier trio, c'est probablement un revers à Vancouver. Puis l'autre joueur dont on parle très peu, ben, probablement plus pas assez, c'est Mike Matheson qui dernièrement joue 26, 27, 28 minutes. Encore hier, Matheson a été très bon. Sans Caden Goulet, Il y en a un qui doit manger encore plus de minutes. C'est difficile à croire dans le cas de Matheson parce que c'était déjà de très grandes responsabilités. Mais si tu parlais tantôt là, du jeu défensif de l'équipe, Matheson est un acteur très, très, très important.
Je regardais un peu au niveau du temps de glace du côté de, des défenseurs, ben, de la Ligue nationale en général. Depuis le retour de la pause de la confrontation des quatre nations, Matheson est troisième pour le temps d'utilisation. D'ailleurs, Zach Werenski et Brock Faber devant Thomas Harley. Tu dis Matheson, ça t'en prend des vétérans comme ça. Puis Matheson, on en a parlé plus tôt dans la saison, a dû se tasser pour Lane Hudson,
ouais.
Mais devient tellement utile dans toutes les autres facettes du jeu que, écoute, la production offensive sera peut-être pas là, mais je pense que sa valeur générale pour le prochain contrat prend de la valeur. Parce qu'on le sait que si Hudson est blessé, Matheson peut prendre le premier jeu de puissance, il l'a fait l'année dernière. Puis dans les autres facettes du jeu, ben là, Matheson fait juste prouver sa valeur encore plus pour un contrat qui, on le sait, va être joueur autonome l'année prochaine, mais ça se négocie quand un contrat? Ça se négocie dans quoi? 3 mois à peu près?
À partir du 1er juillet.
Tu peux, techniquement, tu peux le signer à partir du 1er juillet. Tu commences pas à négocier au 1er juillet. Par contre, donc la valeur, surtout avec la marge de manœuvre salariale que le Canadien va avoir, tu sais, la balle est dans le camp du tricolore, je pense, parce que tu l'as dit dans un autre épisode, Matheson a l'air d'aimer ça être à Montréal. Puis je pense que je suis pas en train de parler d'un rabais, d'un rabais local. J'ai un contrat à ce qu'il vaut pour un joueur local, ça se dessine bien, je trouve. Pour lui, là, il va mériter son argent.
Ben, probablement que l'enjeu, là, après ça, je laisse aller Guillaume, là, mais probablement que l'enjeu va être la durée de l'entente. Mike Matheson a déjà 31 ans. Il lui reste une saison à son contrat à 4,8 environ. Si le CH souhaite lui parler, puis Matheson veut regarder pour du 5-6 ans, ça va peut-être être difficile, mais si on parle de 2-3 ans de plus, peut-être si tu étires à 4 ans, on peut assurément s'asseoir et discuter. Mais ça va être une augmentation de salaire aussi. Là. Matheson, avec les minutes qu'il donne au CH, on va parler de facilement, probablement là, 6 millions par année. Kenan Goulet, sa prolongation de contrat, Goulet gagnera 5,5 millions. Donc, je crois que Matheson doit être en haut de 5,5. Puis, il y a aussi Lane Hudson, qui un jour aura pu son contrat de recrue à partir de la saison 2026-27. Hudson, sans se tromper, là, va être à du 8,5 si tu y vas pour un long contrat de 7-8 ans, Hudson va assurément faire sauter la banque. Donc, il va y avoir beaucoup de chiffres à calculer. Mais t'as beau dire, on a de bons jeunes défenseurs. Arber Jacky n'a pas le profil d'un top 2. Jaden Struble non plus. Il y a encore des doutes pour Ryan Backer. Il y a encore de l'incertitude pour Logan Mailloux. À part Lane Hudson, qui devient le joueur qu'on espérait voir, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, de vouloir enraciner Mike Matheson pour plusieurs saisons, pour moi, c'est une solution qui est tout à fait logique.
Je pense que ça ne sera pas en tout 5 ans, d'après moi. 4 ans, c'est... Tu sais, c'est son contrat, c'est son contrat de... C'est son contrat cash-in. C'est le contrat où il se doit d'aller chercher les derniers gros sous de sa carrière. Parce qu'à 4 millions, c'est pour ce qu'il donne cette année, soyons francs, c'est un rabais, Mike Matheson.
Oui, à 4,8, oui.
À 4,8. Il pourrait faire 6,5, puis il n'y a personne qui dirait qu'il est surpayé présentement, Matheson. Donc, son prochain contrat, c'est celui-là où il faut qu'il cash in. Tu sais, pour tes beaux jours, payer un beau petit chalet ou quelque chose comme ça, aller à la pêche régulièrement, aller jouer au golf sur les plus beaux terrains du Québec. Il faut qu'il aille chercher la grosse somme, les grosses années. Donc, je ne le vois pas accepter de 3. 4, ça va être difficile un peu, mais c'est correct. Parce que si Mike Matheson devient un peu moins bon, beaucoup moins bon à 35 ans, 36 ans, il va quand même avoir donné un bon 3 ans. Là. Je ne peux pas croire que Matheson, dans la façon qu'il joue présentement, ne peut pas donner 3 bonnes, voire 4 autres bonnes années au tricolore.
Puis techniquement, dans mettons, s'il signe pour 5 ans, disons, à 36 ans, un Mike Matheson sur une troisième paire dans une équipe qui est compétitive, qui vise les grands honneurs. J'ai aucun problème avec ça, même si peut-être que là, le salaire va être un petit peu démesuré par rapport à l'apport qu'il va avoir sur la patinoire, mais puis un 5x6 pour Matheson, un 5 ans, 6 millions, 5 ans, 6,5, je vois pas ça comme quelque chose de tragique. Là. Pour le Canadien, ce serait une bonne chose, puis pour lui aussi, je pense que ce serait très acceptable.
Il y a toujours le danger de voir un joueur cassé dans la trentaine. On l'a vu dans le passé. Jeff Petrie peut être un exemple à Montréal où il y a eu un ralentissement peut-être à 33-34 ans. Petrie est un bon patineur, mais Mike Madison est un incroyable patineur. Là. Il fait partie de l'élite des défenseurs de la Ligue pour le coup de patin. Donc, je pense que même s'il va peut-être vieillir, sa rapidité, sa fluidité va grandement l'aider là, dans 3, 4, 5 ans.
Il peut devenir aussi un peu joueur spécialiste. Tu n'auras plus besoin de lui donner 20 minutes par match à ce moment-là. J'essaie de trouver un comparatif.
Pour une équipe qui veut un jour gagner, tu as besoin de bons vétérans. Si Jake Evans, on le décrivait comme un bon vétéran, mais c'est la même chose pour Mike Madison encore plus. Puis on parle pas d'un gars qui... David Savard, c'est une histoire différente. Savard est plus vieux, n'a jamais été un grand patineur. Savard, je pense que si jamais le CH souhaite le revoir, on va parler d'une saison à la fois. Mm-hmm. Ce ne sera pas de gros montants non plus. Matheson, c'en est un que si le CH décide de dire « ben garde, on veut jouer la ligne dure avec lui », il y a d'autres équipes qui seraient prêtes à lui donner du 4-5 ans à un gros salaire.
Oui, c'est ça, il va l'avoir ailleurs de toute façon.
Exact.
Avec ce qu'il a fait dans les deux dernières années. En terminant, juste parler des Canucks rapidement. On se lève ce matin, couche au 4e as dans l'Ouest. Les Canucks qui sont présents hors des séries éliminatoires après leur défaite contre le Tricolore. Un point des Flames avec un match de plus de jouer. Tu as les Blues de Saint-Louis qui ont 69 points. Mais deux matchs de plus de jouer que les Flames. Bref, l'Utah n'est pas trop loin non plus. Bref, ce que vous avez vu des Flames, ce que vous avez vu des Canucks, laquelle équipe vous rassure le plus pour une place en série?
Ben, les Flames, au moins, je peux comprendre à quoi ressemble l'identité. C'est une équipe qui sert le jeu, qui donne rien, plate à regarder, mais qui finissent par avoir des résultats. Puis il y a un Dustin Wolf qui joue du très, très, très bon hockey comme gardien. Les Canucks, c'est un peu comme les Rangers, l'Est ou l'Ouest. Là, je trouve que la chicane a de l'air pognée du côté de Vancouver. Quand on est en fin de saison, puis Rick Tocchet devant les médias dit ben écoutez, le temps de jeu que j'ai offert à Elias Pettersson et Brock Besser il y a quelques jours, il n'en méritait pas plus. Il ne me donne rien, donc je ne leur en donne pas non plus. Pettersson a marqué hier, mais à part un but là, d'un tir du poignet en troisième période, tu le vois pas beaucoup. C'est pas un gars qui est très impliqué. Même chose pour Brock Besser. Philippe Hetzel, qui devait être la révolution hockey du côté de New York, n'a toujours pas pris son envol à Vancouver. Donc, je crois que les Canucks vont plus se regarder vers le bas que vers le haut d'ici la fin de l'année. Les Blues et même Utah pourraient devancer cette équipe.
Puis t'as Quinn Hughes pourrait revenir au jeu ce soir, mais visiblement...
Oh oui, ça va donner un coup de main, mais la gangrène est pognée.
C'est ça, visiblement, il joue avec plus de plaster que il a l'air magané. Là. Tu t'allais dire, Guillaume?
Non, mais ce qui est fou quand tu penses à ça, c'est que c'est une équipe qui était à une victoire de passer en finale de l'Ouest l'an dernier, puis qu'on pensait en pleine ascension. Puis cette année, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui les ont exclus des séries. Là, on est à la mi-mars, puis c'est très peu rassurant de voir l'allure que ça prend du côté de Vancouver. Puis comme disait JF, c'est une équipe qui a de la misère à savoir un peu la direction dans laquelle il s'en va, puis le style de jeu, puis on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'identité à cette équipe-là. C'est un revirement de situation qui est quand même assez impressionnant, négativement, là. Du côté de Vancouver.
Oui, c'est ça. Parce que tu parlais de l'année dernière, mais même si on remonte un peu, je veux dire, il fut pas si longtemps que ça. Elias Pettersson était considéré comme un des plus beaux joyaux de la Ligue. Quinn Hughes l'est encore, disons-le, mais Quinn Hughes un peu fragile. Thatcher Demko, qui devait être le fer de lance devant le filet, toujours blessé. Brock Besser, quoi, 40 buts, 39, 40, quelques buts l'année dernière, Brock Besser. Cette année, est revenu Brock Besser qui décevait des dernières années. JT Miller, potentiel de 100 points, partir à New York. Je ne sais pas, comme tu dis, de la gangrène. C'est quoi qui arrive quand il y a de la gangrène dans un membre, les gars?
Ça va pas bien.
On le coupe.
On l'ampute.
On l'ampute. Elias Pettersson est dans la fleur de l'âge, 26 ans.
C'est ça.
Il a passé d'une saison de 102 points à 80 et des poussières l'an dernier, 89. Cette saison, 37 points pour Elias Pettersson. Est-ce qu'il boude? Est-ce qu'il est malheureux avec Rick Tocchet? Tocchet, on peut imaginer qu'il n'est pas toujours doux dans la... C'est pas le type d'entraîneur qui doit carburer non plus aux gars là, qui sont plus dans la dentelle. Mais quand même, il a 13 buts, Elias Pettersson, 37 points. Il va à peine avoir 50 points cette année, puis il y a 2 ans, 102 points. C'est une dégringolade. Puis les Canucks ont décidé de placer leurs œufs sur Elias Pettersson. Ils ont échangé JT Miller.
Parce qu'encore là, la guerre était poignée.
Oui, la chicane était prise entre deux membres importants de l'équipe. C'est pas trop joyeux en ce moment.
Puis honnêtement, ça peut pas s'expliquer juste du point de vue hockey, là, une dégringolade comme ça pour Pettersson qui arrive dans les meilleures années de sa carrière. Je veux dire, c'est intentionnel ou c'est un manque d'effort, c'est un manque de volonté parce que honnêtement,
il veut sortir de Vancouver.
C'est exactement le genre de joueur qui se retrouverait sous d'autres cieux, qui se remettrait à produire, je pense, au niveau qu'il y avait l'année dernière. Je suis pas mal assuré de ça.
Juste pour être clair, on parle de Elias Pettersson, l'attaquant, et non pas défenseur. Juste pour être clair avec tout le monde. Canadien contre le Kraken, ce soir, vous attendez à quoi comme match? Bon, pour les gens qui nous écoutent jeudi, je suis désolé, là, mais le Kraken, pas dans la course aux séries. C'est une équipe qui a échangé quelques éléments, dont Yanni Gourde. D'ailleurs, JF, ça se pourrait que tu parles à Yanni Gourde aujourd'hui. Je plug le tout. Les gens qui nous écoutent, suivez ça. Là, JF a... devrait parler à Yanni Gourde, tu devrais parler aussi à Vincent Desharnais aujourd'hui. Tu as une grosse journée, bref, en plus.
Grosse journée téléphone.
Donc,
à quoi s'attendre du Kraken?
Le Kraken, c'est une équipe. Mais chez les Canadiens, encore là, je pense que c'est maintenir ce qu'on a fait bien dans ce voyage-là, c'est-à-dire le jeu défensif. Le Kraken n'est pas une puissance offensive, donc logiquement, deux buts, ça se peut que ça ouvre les portes et que tu puisses t'en sortir avec une victoire. Là.
Ben, c'est le type de match, tu peux une victoire à Seattle et on parle d'un bon voyage. Tu pourrais rentrer 2-1-1. C'est la rencontre piège que le CH ne peut pas échapper. C'est le Kraken, c'est une équipe qui est hors du portrait des séries. Ils ont échangé Gourde, ils ont échangé Oliver Bjorkstrand. À l'image des Canucks, là, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe cette saison avec le Kraken de Seattle. Mais j'ai peur aussi. Si tu donnes une vingtaine de minutes depuis quelques matchs à Suzuki, à Caulfield, à Slavkovski, si tu surtaxes ton premier trio, ça se pourrait qu'il manque un petit peu d'essence dans le réservoir. Bonne nouvelle, on parle d'un deuxième match en deux soirs. Le voyagement, là, c'est pas l'enfer faire Vancouver-Seattle en avion. On doit parler de 40 minutes, 35 minutes peut-être.
Moi, je l'ai fait en train.
Oui, en train, ça va être quoi, 3 heures?
Ça va super bien. Juste, vous allez... visiter Vancouver, aller faire un petit tour du côté du Safeco, ben c'est pas le Safeco Field maintenant, c'est le T-Mobile Stadium, je crois, du côté de Seattle, là, un nom du genre, mais super beau stade, là, ça se fait super bien. C'est un beau coin, honnêtement, Vancouver. Là,
non, mais Vancouver et Seattle, deux belles villes, mais là, c'est en ciné, souvent, aussi. Il pleut en diagonale. Donc, c'est parfois moins charmant point de vue de température.
Soyons francs, GF, il pleut en diagonale à longueur d'année.
C'est un coin pluvieux. Mais attendons voir, comme je me répète, mais si le CH rentre avec 6-7 points sur 2-4,
ça fait 8.
5 points sur une possibilité de 8. 5 points sur une possibilité de 8, on parlerait d'un bon voyage.
4 matchs à 2 points.
Écoute, j'ai eu à me coucher tard hier, il y a de la fatigue. Rosalie s'est levée ce matin, elle me regardait avec des yeux à la Maurice Richard parce qu'il n'y avait plus de toast, pas de croissant. Elle me dit, je dois me faire un yogourt. Je disais, pauvre chérie, oui, tu peux manger un yogourt, il y a même des fraises, des framboises, go, arrête de grogner. Quand la grande sœur grogne, qu'est-ce qui se passe? La petite sœur grogne aussi. Quand le papa a peu dormi, il y a un petit peu moins de patience.
Au moins, tout le monde est au diapason.
C'est pour ça que j'ai eu de la misère à faire 4 fois 2 égale quoi.
Ouais, c'est ça qu'on
comprend. C'est un long détour pour vous dire que je blâme l'absence de pain tranché.
Mon petit gars, Zachary, 5 ans, est en train de faire les mêmes calculs que toi. Puis je pense qu'il les a fait plus rapidement que toi, d'ailleurs.
Et messieurs, je voudrais juste souligner que ce soir... si le Canadien l'emporte, se retrouverait à égalité avec les Blue Jackets de Columbus en deuxième place de quatrième as parce qu'il n'y a personne d'autre dans la course qui joue ce soir. Donc, l'occasion est belle. On aurait un match de plus de disputer, mais quand même de grimper finalement dans ce portrait-là officiellement, ce serait bien, surtout avant de revenir à Montréal comme ça.
Ouais. Blue Jackets aurait un match par contre encore en main, mais bon, écoutez, souvenez-vous, là, en novembre, novembre-décembre, les discussions qu'on avait, là, début décembre, là,
on pensait
jamais on aurait cru avoir les discussions qu'on était en train de parler en ce moment. Donc, Il y a du positif, même si, honnêtement, même si Canadien. Dans le mix, hein? Je vais résumer ça de même. On joue des matchs importants en fin de saison, on est dans le mix et voilà, c'est ça. Une équipe qui est pas mal plus que dans le mix, que ça va bien, mais c'est les Sénateurs. 4 victoires de suite. Hier, on l'a emporté. J'ai un petit blanc. Hier, on a signé une victoire contre Philadelphie 5-3, hein, je crois, si c'est ça. 5-2. Mes excuses, j'ai un petit blanc. J'ai écrit sénateur, puis ça m'amène au niveau de la Chambre des communes. Donc, mauvaise recherche sur Google ce matin. Guillaume, t'es allé passer plusieurs jours. T'es arrivé vendredi matin ou jeudi soir?
Vendredi matin.
Vendredi matin.
Je suis arrivé quelques minutes avant l'échange de Dylan Cousins contre Josh Norris.
Bon, t'étais à la bonne place, puis t'es resté jusqu'à ce que tu nous as conté mardi matin du côté d'Ottawa. Donc, gros périple. Ça tombe bien parce que tu as sorti ton carnet et tu as parlé avec beaucoup, beaucoup de gens. Bon, les Sénateurs sont sur une lancée. C'est pas toujours beau, les victoires qu'on a. On a vu ça lundi contre les Red Wings où 48 arrêts pour Linus Ullmark.
48 arrêts,
ouais. Sur 49 tirs, donc une marque qui était solide. On trouve des moyens de gagner. Puis c'est Ullmark lui-même qui l'a dit. On trouve des moyens de gagner. Tu as vu cette équipe-là à l'œuvre pendant 3 matchs. Tu y crois, sénateur? 2 matchs, excuse-moi, t'étais pas là hier, c'est vrai.
Ouais.
2 matchs, t'as vu l'ambiance, t'as vu tout ce qui se passe, les acquisitions. À quel point tu crois au sénateur, pas juste pour les séries, mais à quel point cette équipe-là a enfin tourné le coin puis est en train de devenir, tu sais, se dirige vers le haut du classement, t'es en train lentement, mais sûrement de devenir, je veux pas dire puissance, là, mais une équipe de séries à long terme.
Ouais, je pense qu'on est rendu à cette étape-là. C'est ce que Tim Stützle me disait. Il dit, tu sais, c'est juste le début, ce qu'on est en train de faire. On bâtit quelque chose de grand pour les années à venir. J'y crois parce que je pense que l'arrivée de Dylan Cousins va quand même changer un peu le portrait. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on avait la même image de ce noyau-là qui, année après année, avait un peu de misère à se tailler une place en série ou à demeurer compétitif pendant toute la saison. Mais là, je sais pas, on dirait qu'il y a un petit... l'arrivée de Dylan Cousins amène un petit quelque chose de plus qui me laisse croire que on aurait peut-être un deuxième centre qui pourrait éventuellement connaître des saisons de 70-80 points, devenir un bon support, un bon soutien pour les Ketchuk, les Stoudzla.
Ce que Norris aurait pu être, mais tellement fragile qu'il n'a jamais pu se trouver. Là.
Exact. Mais, puis, tu sais, on discutait à bâton rompu avec Dylan Cousins, puis la question lui a été posée, tu sais, est-ce que tu as vu tous les joueurs qui sont partis de Buffalo puis qui se sont mis à reconnaître du succès ailleurs? Puis il a fait un petit sourire, puis il dit, c'est sûr que je suis au courant, puis c'est sûr que c'est exactement l'objectif que j'ai. Tu sais, il n'était pas capable vraiment d'expliquer le pourquoi, là. Pourquoi c'est les joueurs qui quittent Buffalo deviennent performants ailleurs, mais c'est son objectif à lui en arrivant à Ottawa. Puis c'est peut-être l'effet de nouveauté, mais on y a parlé pas mal tous les jours là, après son arrivée. Puis tu sais, il a l'air vraiment heureux d'être là. Puis il dit, tu sais, c'est sûr que bon, le contraste avec Buffalo à ce temps-ci de l'année doit être assez grand parce que là, tu tombes d'une équipe qui était complètement éliminée de la course aux séries à une équipe qui est en série. Mais
Buffalo qui a battu les Oilers lundi, par exemple. On l'a eu sur le cœur peu du côté des Oilers.
mais tu sais, il disait il y a quelque chose de spécial dans ce vestiaire-là. Puis on le sentait aussi avec la foule. Écoute, le match de samedi contre les Rangers de New York, une remontée de 2 buts en 3e période pour créer l'égalité. Après ça, on l'emporte en prolongation. Lundi, ça a été atroce, complètement atroce du côté des Sénateurs, mais la foule est restée dans le match. Puis Linus Ullmark qui multipliait les petits miracles. Tu sais, l'ambiance qu'il y a là-bas, moi, j'ai pas vu des centaines de matchs à Ottawa, puis j'étais pas là dans les dernières années, mais les collègues disaient, tu sais, il se passe quelque chose. On a vraiment l'impression qu'il y a une ambiance de série. Lundi soir, un vulgaire lundi soir à Canada, il y avait salle comble pour le match des Sénateurs. C'est pas Montréal, c'est pas une équipe qui a des salles combles à répétition, puis que peu importe le rendement, on attire les gens. Là, c'était ça le compte.
Si le Centre Bell était à Drummondville aussi, on comprendrait un peu que ça serait pas plein chez les Canadiens.
T'exagères un peu, mais C'est quand même... non, c'est ça. C'est pas un aréna au centre-ville. C'est pas un endroit, mettons, qui est accueillant. Qui est... Ouais, ça ressemble à ça. Puis...
Mettons, donner une idée, là.
L'affaire, c'est que faut toujours que tu planifies en fonction du trafic. Tu sais, tu peux pas aller souper avant parce qu'il faut que tu arrives à l'aréna avant le trafic de tout ça. Donc, c'est pas nécessairement une expérience qui est grandiose, tu sais, d'aller voir les Sénateurs. Mais là, les gens sont présents, les gens sont derrière l'équipe puis ils ont confiance en cette équipe-là. Puis, tu sais, ce matin, les Sénateurs sont aussi prêts de la troisième place de l'Atlantique qui est détenue par le Lightning que... du Canadien puis des Rangers qui sont derrière à 5 points. Donc, tu sais, on se retrouve dans une belle position du côté d'Ottawa. On joue quand même en confiance, puis on dirait qu'il y a un petit quelque chose qui se passe là-bas.
Belle position, Guillaume, mais il faut, du côté des Sens, il faut éviter les montagnes russes depuis le mois de janvier.
Ouais.
Mm-hmm. Du 25 au 30 janvier, au 3 février, 5 victoires d'affilée. Ensuite, 5 défaites d'affilée. Là, maintenant, c'est une bonne passe. C'est 4 victoires d'affilée, 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Mais tu ne peux pas non plus être aussi inconstant jusqu'à la fin de l'année parce que ça pourrait venir les hanter, même s'ils ont un coussin en ce moment. Mais ce qui est de rassurant, Guillaume, tu étais là pour le voir. Brady Tkachuk, après l'échange de Josh Norris, le matin même, le capitaine a les larmes aux yeux. Tu le sens vraiment ébranlé par le départ d'un bon ami. Mais sur la glace, sa réponse ne fait aucun doute. Marque 2 buts contre les Rangers, un autre but le match suivant, une passe hier, je crois, du côté de Philadelphie. Mais c'est Brady Tkachuk qui peut remplir la feuille de pointage, oui ou non, mais il y a quand même un impact juste par son intensité. Un but hier du côté de Philadelphie. Donc, c'est un gars qui est tellement intense. Puis si Tkachuk se met en tête qu'il veut amener cette équipe-là en série pour une première fois, que c'est sa mission... Mais c'est une bonne nouvelle pour les Sénateurs d'Ottawa et les partisans de voir le capitaine qui joue de cette façon-là.
Oui, puis je pense que c'est exactement ça qu'il a en tête. Là, après chaque fois qu'on lui a parlé en fin de semaine, c'était vraiment l'objectif série. Puis on veut être une équipe qui est difficile à affronter, une équipe qui garde le. Tu sais, contre les Rangers, quand on tirait de l'arrière par 2 buts. Il dit on a continué de jouer de la même façon. Puis c'est une équipe qui est quand même. J'ai été pas surpris, mais c'est ce qui me saute aux yeux. C'est une équipe qui est physique, qui joue de façon assez hargneuse. Puis David Perron me disait, il n'y a pas juste, tu sais, par le passé, peut-être Brady Tkachuk était seul dans son coin à frapper tout ce qui bougeait puis à terminer le match avec 6, 7, 8 mises en échec. Mais il dit là, on dirait que tout le monde a embarqué dans cette façon de jouer-là, puis tout le monde met l'épaule à la roue. Dylan Cousins, je pense, 9 mises en échec au premier match, 8 ouais. À son deuxième, quelque chose
c'est,
comme ça.
C'est de maintenir ça qui est le défi, là, toujours. Là,
ben, c'est ça. Zetterlund, je pense, son premier match, 6 mises en échec. Tu sais, c'est une équipe qui veut être difficile à affronter, qui joue du hockey de série en ce moment. Donc, tu sais, ça, c'est de bon augure quand tu vois tout le monde qui suit... L'exemple du capitaine, ben, c'est quand le modèle est Brady Tkachuk, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est un bon modèle à suivre. Fait que les Sénateurs sont sur la bonne voie pour l'instant, mais comme tu disais, JF, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise séquence, mais ça sonne positif là, en fin de semaine du côté d'Ottawa.
Brady Tkachuk prend bien évidemment énormément de place par son style de jeu, par sa en bon français, sa grand gueule. Tu sais, je veux dire, il en prend de la place. Est-ce que ça fait qu'un Tim Stutzel passe dans l'ombre alors qu'il est en train d'accomplir de très bonnes choses? Autant offensivement, il l'avait déjà prouvé, il est capable de faire des points. Il y a une saison de 90 points, je pense que c'est sa troisième saison dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce qu'il est en train de devenir le joueur d'impact de concession offensivement qu'on attend chez les Sénateurs depuis quoi? Jason Spezza peut-être le dernier ou Daniel Alfredson, un des deux là?
Ouais, ça fait un bout qu'on n'a pas eu une vedette offensive de la trempe de Tim Stutzel à Ottawa. Tu sais, j'ai posé la question vraiment directement à Stutzel. Je lui ai dit, tu sais, à ta troisième saison, tu as eu 90 points, mais est-ce que tu as l'impression que cette année, tu produis à peu près au même rythme, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu amènes à cette équipe-là? Puis il m'a dit du tac au tac, c'est. Je suis un joueur beaucoup plus complet, j'accorde beaucoup plus d'importance à mon jeu sans la rondelle. Puis quelques jours auparavant, j'avais posé la question aussi au directeur général Steve Staios, parce que pour moi, le message qui a été envoyé vendredi avec l'acquisition de Cousins puis Zetterlund, c'est « OK, mes gros canons fonctionnent. T'as un Ketchuk qui mène par l'exemple. T'as un Stutzla qui offre la production offensive qui est supposé offrir. C'est le temps de les entourer puis d'aller chercher un peu de renfort. C'est ce qui a été fait. Puis je lui ai posé pourquoi est-ce que Stutzla te donne confiance, t'inspire confiance, qu'il est capable, qu'il en est rendu au stade où il peut traîner cette équipe-là en série puis il peut avoir un impact en série. Puis il dit non seulement c'est sa volonté de gagner, mais c'est sa volonté de bien jouer dans tous les aspects du match. Puis ça, c'est, on l'entend souvent. Là, c'est comme, bon, hein. on a eu le même discours un peu pour Cole Caulfield à Montréal. Le joueur plus complet et tout ça, ça peut sonner cliché, mais quand tu le vois jouer, puis Thomas Chabot disait la même chose, c'est il est capable de prendre le contrôle d'un match. Puis ça, c'est peut-être une chose que, tu sais, dans sa saison de 90 points, il a produit, mais est-ce qu'on pouvait parler de Tim Stutzla comme un joueur dominant, capable de prendre un match sur ses épaules puis de faire la différence? Peut-être pas. Là, à 23 ans, avec un peu plus d'expérience, peut-être mieux entouré, bien, on a l'impression que son impact se fait de plus en plus sentir. Puis c'est vrai, t'as raison de dire que Ketchuk a toute la lumière sur lui. Mm-hmm. Tu sais, Tim Stutzla, je pense qu'on lui a parlé une fois dans les... J'étais là vendredi. En quatre jours, Stutzla est sorti une fois. Ketchuk, on lui a parlé peut-être trois fois. Fait que le capitaine prend l'attention, mais tu sais, derrière, t'as aussi Stutzla qui joue en sa compagnie sur le même trio avec Claude Giroux, qui fait sa petite affaire, qui produit, puis c'est bien comme ça. C'est comme la dynamique qui est là à Ottawa en ce moment.
À l'image, ironiquement, d'un Matthew Ketchuk versus Alexander Barkov en Floride.
Ben, c'est ça.
C'est Matthew Ketchuk qui est sur les affiches, tout ça, puis pourtant, c'est Barkov que tout le monde dit... C'est un des meilleurs centres de la Ligue nationale de hockey. C'est le gars le plus efficace. Mais combien d'années on a dit Barkov, t'es le joueur le plus sous-estimé de la Ligue? T'sais, pourtant, tout le monde dit, il est incroyable. Mm-hmm. Ouais, mais personne ne parle de lui. Stutzla, peut-être pas au même niveau. Là, on s'entend.
Non,
je pense
non,
pas
qu'il n'est
pas aussi complet qu'un Barkov, là, bien évidemment. Mais il est en train de devenir ce joueur-là, tout en étant. Il n'y a pas la pression qu'un Ketchuk peut avoir. Là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi l'aspect. Bon, de façon médiatique, peut-être que Brady Ketchuk, on a plus de chances d'avoir des bonnes déclarations de sa part que de Tim Stutzla, mais ben, c'est ça, c'est possiblement ça aussi qui explique le fait qu'on parle plus souvent à Ketchuk, mais non, Tim Stutzla commence, tu sais, moi j'ai peut-être moins lundi, là, mais honnêtement, lundi, ça a été un match épouvantable pour la majorité des joueurs des Sénateurs, mais samedi, Stutzla m'a vraiment, vraiment impressionné contre les Rangers. Là. Il y a eu plusieurs séquences où tu disais, OK, il y a la rondelle sur son bâton, puis l'autre équipe réagit en fonction de ce qu'il fait. Là. C'est lui qui mène la charge, puis qui dicte ce qui va se produire. Donc, moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux dans le match de samedi. Puis lundi, sa séquence de 14 matchs avec au moins un point a pris fin. Là. Quoi qu'il ait failli marquer dans un filet désert à la toute fin pour garder la séquence intacte. Là, mais en 14 matchs, c'était 20 points, je crois, 5 buts, 15 passes. Stutzla se lève au moment où ça compte le plus. Puis c'est de bon augure pour les Sens.
Tu parles de Stutzla, mais à ligne bleue, il y a Jake Sanderson aussi qui, à 21 ans, joue son meilleur hockey. Sanderson donne de grosses minutes.
Il a tourné Thomas Chabot. Il a tourné Sanderson aussi, lent début de saison, mais il a tourné la page. Oui. Là, vraiment, il est en train
Surtout quand, avec Artem Zub qui est en santé, Sanderson, là, il y a un partenaire plus régulier. Puis Thomas Chabot, je me souviens aussi d'une visite à Ottawa où il me disait, moi, ça fait plusieurs années que je demande à avoir un droitier à mes côtés. Cette saison, Staios a réalisé le souhait de Thomas Chabot avec l'acquisition de Nick Jensen. Oui, Jacob Chychrun joue du bon hockey à Washington, mais Jensen, dans un rôle précis avec les Sénateurs, donne un coup de main. C'est une équipe qui, sur papier, a le talent pour participer aux séries. Puis si on parlait de profondeur du côté de Montréal, ben les Sens, en ce moment, cachent un Fabien Zetterlund au sein d'un quatrième trio. Probablement qu'on veut l'intégrer tranquillement. Ils ont Shane Pinto au centre du troisième trio. Il y a du talent offensif, là. Drake Batterson aussi à l'aile d'un deuxième trio. Donc, c'est une équipe qui, à moins d'une catastrophe, participera aux séries. Je serais vraiment surpris du contraire.
Puis Chabot est en santé. Ça, c'est l'autre affaire aussi qu'il n'y a pas beaucoup
cette année,
eu dans les dernières années. Guillaume,
ben, j'ai pas frappé par un juge de ligne, ça va bien.
Oui, oui.
Je sais pas si vous avez vu, c'est dans le match de c'était lundi, je crois. Il y a du retrait au vestiaire pendant quelques minutes là, après ce contact-là qu'on a.
Contre
le juge de ligne, c'est assez.
Il
ouais,
y a le bon vieux David Perron aussi, les gars. Il commence à retrouver ses repères. Guillaume a écrit au sujet de David Perron, mais c'est le type de joueur quand les matchs deviennent où la nervosité est présente. T'sais, Perron a déjà gagné, a grandi dans une ville merveilleuse qui est Saint-Louis. Donc, Perron peut amener toute sa sagesse et son expérience au Sénateur d'Ottawa.
Et puis, tu peux rajouter Claude Giroux aussi. Giroux n'a pas gagné. Tu veux gagner pour Claude Giroux aussi. Ça, c'est le revers de la médaille d'un David Perron qui lui a gagné l'expérience. Giroux n'a pas gagné. Travis Hamonic n'a pas gagné. T'sais, pour les jeunes de cette équipe-là, pour un gars de on dit tout le temps, je ne sais pas pourquoi on dit ça un peu, Giroux est du coin, c'est pas vrai. Il a joué avec les Olympiques là, à Gatineau, mais il est de Hearst. Hearst, on peut parler des Franco-Ontariens, là, mais Hearst, c'est loin en ciboulot d'Ottawa, là, honnêtement. Là.
Alors, mais il a porté l'uniforme des Olympiques.
C'est
long,
ça, c'est bon, tout ça. Pour le plaisir, Guillaume, j'ai plaisir, peut-être que les gens d'Ottawa vont me dire que c'est pas vraiment plaisant, mais j'ai été voir la liste des gardiens depuis la dernière fois que les Sénateurs ont participé aux séries éliminatoires. 18 gardiens au total ont été utilisés. Certains bons. Craig Anderson a eu une belle carrière. Philippe Gustafsson, ça regardait bien, mais disons que finalement, il est bon ailleurs parce qu'on a été chercher un Cam Talbot. Plusieurs plus douteux. Et là, tu as Linus Ullmark qu'on a été chercher dans une transaction avec les Bruins de Boston. Les Bruins ont accepté de séparer leur duo. Peut-être à tort, parce que quand on regarde la saison de Jeremy Swayman, il faut visiblement avoir un 1A, 1B, ça fonctionnait bien. À quel point l'arrivée puis l'impact de Linus Ullmark, on l'a vu lundi dans le match, là, permet pour les Sénateurs de bâtir là-dessus. Quand tu as un mauvais match, Ullmark est là. C'est un gardien qui a gagné le trophée Vézina. Il passe sous les radars. On ne l'a pas en début de saison parmi les meilleurs gardiens de la Ligue, mais il a gagné le Vézina. Puis là, il est peut-être en train de prouver qu'il est capable d'être numéro 1 dans une équipe, dans une bonne équipe dans la Ligue. Là.
Ben oui, le match de lundi, c'est l'exemple parfait. Là. On s'entend que sans Linus Ullmark, ce match-là aurait été catastrophique pour les Sens. Ça a été plusieurs petits miracles. Puis j'ai l'impression que ça permet peut-être à la défensive devant lui de respirer un peu. Ça donne confiance aux troupes. Puis honnêtement, je sais pas quel genre d'impact il y a dans le vestiaire, mais c'est un gars qui est... Tu sais, quand on parle des gardiens, là... Lui c'est un vrai gardien. Là. C'est honnêtement, là, j'en parlais au collègue Julian McKenzie, puis juste, je le connais pas, là, mais juste l'impression qu'il me donne dans ses points de presse, dans tout ça, c'est un gars qui est sur sa planète. Là, tu sais,
juste,
je sais pas.
Juste une coche en dessous d'Ilya Brizgalov. Hein? Ça ressemble un peu à ça.
il est très dur à lire, puis tu sais, après le match... Après le match de lundi, on lui parle, il vient de faire 48 arrêts, vient de permettre à son équipe d'arracher 2 points aux Red Wings, qui est une autre équipe dans la course aux séries. Tu sais, c'est une victoire très importante. C'est lui là, qui a permis à son équipe de gagner. Puis tout le monde se réunit autour. Tu sais, moi, avec mon réflexe de Montréal, si Sam Montembeau fait une performance de 48 arrêts, permet aux Canadiens de gagner... Il va avoir le gros smile, il va jaser très rapidement, puis il va parler pendant 8 minutes. Mais là, on se retrouve là, on pense qu'on va avoir quelque chose de bon, puis finalement, Ullmark est comme. Il a l'air un peu frustré, un peu déçu, je sais pas. Puis là, on essaie d'aller dans l'émotion. T'sais, est-ce que tu as entendu les partisans crier ton nom? Est-ce que. Non. Non, je me concentre sur le prochain lancé. Puis tout ça, puis toutes des réponses épouvantables. Puis tu sais jamais s'il niaise ou s'il est sérieux. Il est très pince sans rire. Fait que dans ses réponses, c'est extrêmement dur à lire. Fait que je sais pas quel genre de d'impact il y a dans le vestiaire, mais tu sais, je pense que cette personnalité-là, peut-être un peu, je sais pas, laid back, je sais pas comment dire en français, mais un peu...
Ouais.
Relax un peu.
Un Roger Bontemps.
Ouais, mais un peu bizarre, ouais. Tu sais, mais je pense que...
juste pause, time out. C'est quoi ta définition de Roger Bontemps?
Un gars easygoing. D'ailleurs, ça vient d'un texte de Carey Price, ça, où j'ai sorti comme traduction Roger Bontemps. Je me souviens plus les mots exacts en anglais de Carey, mais il n'y avait pas de... Je vais les retrouver pendant que vous parlez, mais il n'y avait pas de traduction juste.
OK. Ben, je veux dire, j'entends cette expression.
Relax, là.
Moi, tout le temps, Roger Bontemps, tout le temps pensais que c'était un bon mononcle qui riait un peu gras, là, puis il est rouge de la face parce qu'il fait du cholestérol. Ça a tout été ma vision d'un Roger Bontemps. Mais là, tu me mélanges un peu. J'avais pas cette vision-là. Je sais pas, mais continue, Guillaume, sur le mark. Mais bon, c'est sûr que, enfin, à Ottawa, on a un gardien solide, stable, il est là pour longtemps, tu peux bâtir autour de ça. Tandis que des dernières années, Cam Talbot, il restait un an de contrat, Philippe Gustafsson, c'était un jeune, Craig Anderson, bon, on s'en allait sur la retraite, tu sais, puis on était dans la phase de reconstruction aussi. Matt Murray, tu savais pas s'il allait être blessé, il était dans une mauvaise pause de sa carrière, ben, il était dans la grosse descente de sa carrière. Korpisalo venait d'arriver aussi de Los Angeles après Columbus, avait rien prouvé. Tu sais, on parle des jeunes qui grandissent. Si tu peux mettre un pilier solide en arrière, tout le monde en avant doit jouer plus calmement quand il est sur la glace.
Je pense que, tu sais, au-delà de... Tu sais, on parle des acquisitions. Celle de David Perron a été une acquisition de sur le marché des joueurs autonomes. Linus Ulmark aussi. On rajoute Dylan Cousins et tout ça. Ça, à la date limite, on en parle un peu plus, là, mais il ne faut pas oublier que, justement, ces mouvements-là ont été très importants à l'été. Puis, d'après moi, juste le fait d'avoir un bon gardien, c'est ce qui fait la grande différence du côté d'Ottawa. J'essayais de trouver les stats pendant que vous parliez, mais je crois que les Sens sont parmi les équipes qui accordent le plus de tirs à l'adversaire. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont, cette année, ils ont 16 victoires alors qu'ils ont été dominés au tir par leur adversaire. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça parce que par les années passées, avec la liste des gardiens que tu as nommés, je crois pas qu'il y avait autant de victoires. Tu sais, quand tu te fais dominer au tir, les Sens n'avaient pas vraiment le gardien qui leur permettait de sauver avec une victoire dans des situations comme ça. Cette année, c'est l'inverse. Fait que c'est de bonne augure. Tu sais, je sais pas, en série, je sais pas ce que ça pourrait donner. Tu sais, mettons qu'on se classe dans une des deux places de quatrième as, qu'on affronte les Panthers ou les Capitals en première ronde. Je pense que ça serait un bon duel, mais je pense qu'on va y aller étape par étape du côté d'Ottawa. Je pense que le simple fait de participer aux séries, ça va être la première étape. Je vois pas vraiment comment cette équipe-là peut aller un peu plus loin parce que le gardien est bon, mais défensivement, j'ai l'impression qu'il manque encore quelques morceaux importants.
Mais en même temps, c'est une équipe qui n'aura rien à perdre.
C'est ça,
ils vont rentrer en série. Techniquement, ils devraient sortir au premier tour, mais dans un cas pareil, tu peux uniquement surprendre. J'ai hâte de voir.
Jamais...
Je déteste pas. Si la fin de saison, pour rentrer en série, que ce soit les Sens, les Blue Jackets, les Canadiens, peu importe, on va parler d'une équipe qui va avoir gagné une grande majorité là, des 20 derniers matchs. Donc, tu peux rentrer avec un élan, avec une confiance. Donc,
puis même voyons, une naïveté équipe jeune qui a
pas
jamais
peur.
Vu ça, puis là, qui soudainement est tout excité, puis fait les bonnes choses. Ça s'est déjà
J'aimerais
vu,
tellement ça. Un premier tour Toronto-Ottawa. Les deux équipes ontariennes.
Je m'en allais là.
En même temps, vous faites sauter les pourcentages de chances qu'une équipe canadienne gagne la coupe, là.
Ouais, mais pour
ouais,
le
mais
duel,
t'augmentes le pourcentage de chance d'une équipe canadienne au deuxième tour aussi. Ouais.
Oui. Présenté comme ça.
Hey, l'expression que je cherchais, les gars, l'expression que je cherchais tantôt de Carey Price, c'était pour décrire Samuel Montembeault, mais disait Happy Go Lucky.
Okay.
Donc, j'ai traduit par un Roger Bontemps, un gars qui est calme, ouais, qui aime rire, qui.
Oui, c'est plus ça que je voyais, moi, pour
Roger tranquille, happy, go lucky. Disons que Carey m'avait un peu surpris avec cette expression-là. C'est pas quelque chose que... Déjà que Carey Price sort une expression, là, puis qu'il jase pendant 30 minutes, il y avait de quoi être surpris. Mais il était de très bonne humeur ce matin-là.
On parlait de la première ronde des séries éliminatoires. L'équipe qui pourrait affronter les Sénateurs, si tout se déroule comme on le pense, c'est les Panthers de la Floride. Mais là, les Panthers, bonne brique sur la tête avec la suspension d'Aaron Ekblad pour 20 matchs. Usage de produits, bon, enfin, le terme exact, là, n'a pas respecté la politique antidopage de la Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle d'un produit, un peu lui a expliqué, là, un produit qu'il aurait utilisé alors qu'il tentait de guérir d'une blessure. Bon, au final, la suspension est la même. C'est 20 matchs, donc les deux premiers matchs des séries éliminatoires. Tu te retrouves avec Seth Jones comme défenseur numéro 1. Hier, Seth Jones a été utilisé pendant à peu près 26 minutes. Bienvenue en Floride, comment puis-je t'aider? C'est ça pour Seth Jones. Dans une course aux séries éliminatoires qui est aussi difficile dans l'Est de l'Atlantique, je dis une course aux séries éliminatoires, une course pour le sommet de l'Atlantique, devrais-je dire, où les Panthers ont 2 points d'avance présentement sur les Maple Leafs, mais avec un match de plus de jouer. Le Lightning, là, 2 défaites de suite, ça a ralenti un peu, mais on ne sait jamais, ça peut aller vite. La perte d'Aaron Ekblad, l'absence de Matthew Tkachuk, est-ce que les Panthers vont être capables de toffer jusqu'au bout pour terminer premier, alors qu'on l'a dit, c'est super important de terminer au sommet de la section cette année?
Ben, il y a Brad Marchand aussi qui va se pointer le bout du nez dans quelques jours. Donc,
ben, le bout du nez est déjà rendu.
Oui, le bout du nez est en Floride.
Moi, j'ai lu un commentaire sur notre page Facebook. J'ai pas le nom de la personne, mais j'ai ri. Là, il voit la photo de Brad Marchand avec un survêtement des Panthers, une casquette des Panthers, puis il a juste écrit « un vulgaire Photoshop ». Tu sais, comme, genre, je suis pas en train vraiment de voir ça, c'est pas ça que je vois. Là, c'est... Et Marchand qui a répondu, il s'est fait dire « bon, le rouge, ça va pas dans ta palette ». Il dit « non, il s'est fait sortir mes yeux un peu ». Donc, Marchand a l'air heureux d'être là. Hein,
ouais, heureux, je pense. Là. Ben, tu sais, 36 ans, Brad Marchand, on pouvait entendre qu'il ralentit. Les Browns, visiblement, avaient la vision d'un joueur plus sur le déclin. Les négociations avec Sweeney et Cam Neely ont achoppé, donc pas de prolongation de contrat. Marchand va vouloir démontrer aux Panthers qu'il a encore du hockey dans le corps. Puis, il n'aura pas besoin non plus d'être le gars qui va transporter l'équipe. Quand Matthew Tkachuk va revenir au jeu, il y a déjà Alexander Barkov, il y a Sam Reinhardt, il y a Sam Bennett, donc il y a beaucoup de talent. Tantôt, Nick, tu parlais de Seth Jones, l'absence d'Aaron Ekblad pour 20 matchs, dont 2 matchs en série. C'est là que tu dis que l'acquisition de Seth Jones de la part de Bill Zito tombe à point. Jones va donner du temps aux Panthers, mais il y a aussi Gustav Forsling, il ne faut pas l'oublier. Là, pour moi, Forsling est probablement le meilleur défenseur de cette équipe-là. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir le premier rang dans l'Atlantique? Ce sera pas facile sans Ekblad, sans Matthew Tkachuk. Les Maple Leafs et le Lightning sont aussi très conscients de l'importance de terminer au sommet. Donc, c'est une autre lutte à surveiller d'ici la fin de l'année.
Ça vous tente-tu un duel tout Floride en première ronde puis un duel tout Ontario, tout Ontarien en première ronde?
Ce serait le fun à couvrir. C'est moi, ça, je pense que Guillaume, déjà Marriott, les dirigeants de Marriott ont appelé Guillaume parce qu'il regarde sa fiche d'hôtel cette année, voit 17 nuits, puis il en voit 17 à Ottawa. C'est sûr, tu prends le téléphone, tu hôtel, demandes. Là. Ouais, puis tu dis qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres destinations que Canada. Donc, juste par fidélité, je crois que Guillaume aurait le droit d'aller à Ottawa. Puis moi, j'ai ri. C'est le fun aussi.
J'aurais le droit d'aller. Ok, moi, je m'en dis.
J'aurais le droit
d'aller en Floride acheter un burger avec le taux de change là, à 1,5, peut-être 1,6 le temps que les séries vont commencer.
Toi, GF, ça va être un joyeux festin. Là. Ça va être ça au niveau des budgets.
Ouais. Puis même pas de bacon dans le joyeux festin parce que je pourrais pas me le permettre.
Mais la bonne chose, GF, si je vais à Ottawa puis que c'est contre les Maple Leafs, c'est que le collègue Josh Clipperton va être là.
Très présent.
Là.
Feu vert à Toronto et Ottawa.
Il va sûrement mettre quelques t-shirts gris dans sa valise.
Oh, bo boy.
J'aime comment les deux, ils règlent leur cas. Ils règlent leur dossier sur le podcast. Hey, on a parlé des Maple Leafs. Quand même une nouvelle assez surprenante qui est sortie. Bon, on est plus au stade de rumeurs, là, mais techniquement, là, quand Brad Treliving en a parlé, puis Mitch Marner en a parlé aussi, visiblement, ça se confirme. Treliving, directeur général des Maple Leafs, a demandé à Marner s'il était prêt à lever sa clause de non-échange à la veille de la date limite des transactions, dans ce qui aurait possiblement été une transaction pour aller chercher Mikko Rantanen du côté des Hurricanes, avant que celui-ci soit échangé à Dallas. D'ailleurs, bon départ pour Rantanen. Ça s'est bien passé avec sa nouvelle équipe. Visiblement, semble un peu plus motivé, disons-le, de la sorte que de se retrouver en Caroline. Parce que, selon ce qui est sorti, là, Rantanen, la Caroline, c'était pas pour lui. Le NASCAR, là, puis tout ce qui... Puis les quelques autres choses, puis quoi, Myrtle Beach, en Caroline, dans les Carolines, donc tout ça. Donc, c'était pas pour lui, il a préféré l'air de Dallas. Mais bon, est-ce que c'était une gaffe du côté des Maple Leafs de faire cette demande-là, surtout si on n'avait pas un échange officiel sur la table, d'aller demander à un Mitch Marner, qui va être joueur autonome sans compensation, comme l'était Rantanen, il faut le dire, là, qui est un excellent joueur, qui est un de tes meilleurs joueurs. Puis là, tu vas aller loin en séries éliminatoires, tu veux essayer de leur signer, mais si tu fais cette demande-là, toi, t'es Mitch Marner, comment tu prends ça?
Oui, mais la gaffe aussi dans le cas de Brent Treliving, c'est peut-être d'avoir gardé Marner dans cette situation-là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de contrat. Avec Austin Matthews et William Nylander, reste le joueur le plus essentiel à cette équipe-là. Comment tu réagis? C'est une drôle de situation. Moi, je peux imaginer, là, tu sais, vivons pareil scénario à Montréal. Tu apprends à quelques jours d'une participation aux séries que Kent Hughes a demandé à Cole Caulfield ou à Nick Suzuki d'être échangé. C'est quand même de la bombe pratiquement nucléaire là, en termes de hockey. Je peux comprendre aussi Treliving de vouloir se protéger. Il y a probablement ces années à Calgary qui lui ont appris que ça, oui, que ça peut être un jeu dangereux. Faut rappeler le contexte. Là, Treliving avait perdu Johnny Gaudreau qui avait signé avec les Blue Jackets de Columbus. Donc, les Flames n'avaient rien reçu en retour. L'échange de Matthew Tkachuk quelques jours plus tard pour Jonathan Huberdeau. Donc, possiblement qu'il voulait se protéger. Rantanen aurait débarqué à Toronto avec un contrat à long terme. Si les Maple Leafs faisaient partie de sa liste, visiblement pas. Là. Rantanen, finalement, fait ses valises pour Dallas.
Ben, on ne saura pas si Toronto faisait partie
non,
de sa liste.
Non, on ne saura pas. Ça, mais Mitch Marner, lui, a dit qu'il veut demeurer un Maple Leaf, veut poursuivre l'aventure. Mais Marner va coûter combien? T'sais, on parlait de 12 millions pour Rantanen. Marner, à mon humble avis, c'est minimum 12 millions. Austin Matthews est à 13,25 puis William Nylander est à 11,5. Donc, Marner
année,
va faire la sandwich
année,
à 12,25 peut-être, mm-hmm. 12,5. Là.
Puis Marner, cette année, est le joueur le plus utile des Leafs. C'est 14 points de ouais. plus que William Nylander. C'est une grande saison pour Marner. Moi, ça me surprend un peu dans le contexte parce que, bon, il y a les séries qui viennent. Marner est ton meilleur joueur. Mais l'idée de faire l'acquisition de Mikko Rantanen pour les Maple Leafs, je pense que c'est peut-être ça qui aurait... T'sais, on parle souvent du fait que les Leafs gardent éternellement leur noyau de le core four, là, le noyau de quatre joueurs qui ne fonctionnent jamais en série. Je pense que ça aurait... Je trouvais ça intéressant comme idée de la part des Maple Leafs, mais là, tu viens chambouler. Autant on disait, mettons, à Ottawa que... Tu chamboules un peu ton noyau en échangeant Josh Norris, t'affectes ton capitaine. Là, t'affectes personnellement un joueur qui reste dans ton équipe puis qui va se poser des questions sur son avenir puis sur le... Tu sais, est-ce que lui veut rester à Toronto, mais visiblement, tu sais, c'est pas réciproque. Fait que...
Comment c'est un panier de crabe, là. Si ça part lentement en série, après deux matchs, Marner a pas de points.
L'année passée,
les partisans vont tomber dessus là, assez rapidement. Là.
L'année passée, Mitch Marner, là, en série, c'était très tranquille offensivement. Puis il y avait même des séquences défensives où il perdait ses joueurs et tout ça. Il est devenu la cible des médias. Je me souviens, je pense qu'il y avait une page frontispice d'un journal, là, le Toronto Sun. Je pense que c'était Marner. Il y avait un jeu de mots quelconque. Après le quatrième match, peut-être troisième match de la première ronde, la pression à Toronto est toujours dans le tapis. Puis si ça ne fonctionne pas en série, après deux matchs, ça dérape complètement. Les partisans, les médias se mettent sur le dos de un ou deux joueurs qui ne fonctionnent pas. Puis Mitch Marner est souvent la cible principale. En sachant ça, la proposition d'échange, le fait que lui a refusé, il y a probablement certains partisans qui se disent hey, on aurait voulu Rantanen au lieu de Marner, puis là, Marner a empêché que ça se produise, puis tout ça, ça met une dynamique complètement toxique du côté de Toronto. Puis on sait que ça prend, tu sais, c'est une botte de foin, là. Ça prend une allumette, puis c'est parti. L'incendie se met en branle. Fait que je sais pas. Je trouve que l'idée était bonne pour Rantanen, mais de demander à ton meilleur joueur.
c'est ça.
Si ça avait fonctionné, l'idée... ça aurait été bon, mais.
Guillaume, l'idée est bonne tant qu'elle reste secrète. Là. Faut juste pas que l'information coule.
Tu dis ouais. Eric Tolsky, tu t'es fait avoir une fois par l'Avalanche, pourrait peut-être se faire avoir une deuxième fois par Toronto. mais au final, ce que ça me dit, c'est que Marner viendra pas. Là. Parce que si on a voulu l'échanger...
Je sais pas.
C'est qu'on doit être loin d'une entente, extrêmement loin d'une entente.
Oui, mais écoute, parce que, Tavares, techniquement, c'est 10 millions qui se libèrent.
Non, mais je vais juste ajouter ça. Si tu étais prêt à signer une entente, à négocier une entente en pleine saison avec Mikko Rantanen, pourquoi tu le fais pas avec Mitch Marner? Je veux dire, donne-y ce qu'il a besoin pour rester et tout ça. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y a du sable dans l'engrenage ou si on est prêt à lui demander de lever sa clause de non-échange, c'est qu'il n'y aura pas d'entente puis Mitch Marner va être disponible à 14 millions sur le marché des joueurs autonomes cet été. Là.
Mais en même temps, je pense que le fait que Rantanen, un joueur de la trame de Rantanen, soit devenu disponible en cours de saison, ben là, peut-être que après toutes les années où on a parlé de brasser les cartes à Toronto puis de changer le noyau, je pense que quand une occasion comme celle-ci s'est présentée, ben peut-être que là, Trey Living a peut-être réfléchi puis s'est dit « OK, c'est maintenant ou jamais, si je veux brasser les cartes, si je veux changer l'identité de mon noyau. » Je pense que Rantanen, c'est peut-être l'exception qui fait en sorte que « OK, là, on va essayer de faire quelque chose parce que c'est Mikko Rantanen. » Fait que j'exclurais pas la possibilité qu'il reste là, mais je pense que les séries vont... T'sais, à chaque année, on dirait que c'est la même chose là, à Toronto. Si ça plante encore, ben on va changer l'identité et tout ça. On dirait qu'il ne se passe jamais rien, mais là, je pense qu'on est rendu à la limite de tout ça.
Puis ironiquement, si ça se passe mal en séries éliminatoires, ça va être l'enfer. Puis si ça se passe bien et on va jusqu'au bout, ben Marner va arriver et va dire, regardez, qu'est-ce qui arrive quand un joueur autonome gagne la Coupe Stanley, passe à la banque, allez, passe go puis ramasse 200$, là, c'est pas mal ça qui va se passer avec Marner. Il va être encore plus difficile à signer. Donc, Trey Living est en train de s'est peinturé dans un coin, GF, comme tu as dit, en n'ayant pas réglé cette situation-là avant la saison.
Oui, puis écoute, c'est Mitch Marner qui a le gros bout du bâton. C'est un gars de la place, c'est un gars de Toronto. S'il veut poursuivre à Toronto, il va obtenir l'argent. Puis les Maple Leafs, tu sais, froidement, est-ce qu'ils peuvent se permettre de laisser aller Mitch Marner? Absolument pas, là. C'est une équipe qui n'a pas de choix au repêchage, qui a très peu d'espoir, à l'exception peut-être d'Easton Cowan. Mais même là, tu ne vas pas revirer l'équipe à l'envers avec Easton Cowan.
Marner, tout un nom, par exemple. Soyons francs.
Oui, ça, je lui donne, là. Mais un nom, là. Si Marner
Fraser Minton vient d'être échangé en plus.
Fraser Minton est parti du côté de Boston en échange de Brendan Carlo. Si Marner, cet été, demande 13 ou même 14, les Maple Leafs vont être coincés et ils n'auront pas le choix de lui donner. Là. Si Marner veut jouer à Toronto, c'est ça la grande question. Moi, je continue de croire que oui, qu'il va vouloir poursuivre l'association avec Austin Matthews, mais Matthews et Marner, dans l'histoire récente là, des négociations de contrat, sont les deux joueurs qui ont réussi à mieux monnayer leur valeur. Ils ne signent jamais des contrats de 8 ans. Matthews, c'était 4 ans le dernier contrat. Marner, lui, c'était 6. McDavid, Dreisaitl, MacKinnon ont accepté des 8 ans, mais à Toronto, c'est non. Donc, depuis le début, on dirait que c'est, sans dire un fiasco, là, mais ça a été difficile, les négociations de contrat. Puis les Leafs, l'empreinte salariale de ces joueurs-là est toujours plus élevée parce que, justement, on n'a pas été capable d'acheter la 7e, la 8e, la 5e saison. Donc, c'est pour ça que ça revient vite. Puis, t'sais, Marner, il a quoi? Il a 27 ans, si je ne me trompe pas. C'est un gars de 90 points. C'est un gars qui joue en infériorité numérique. C'est un très bon joueur de hockey, même s'il a une uniforme des Maple Leafs sur le dos. Là. S'il veut 13, ils vont lui donner 13. S'il veut 14, ça va être 14. Je suis persuadé que c'est lui qui va gagner en bout de ligne.
Et imaginez, par contre, qu'on se retrouve dans une situation l'année prochaine où et Tavares et Marner ne sont plus là. Ça se pourrait que cette année, c'est maintenant ou jamais pour les Maple Leafs. On n'aurait pas cru ça, là, mais justement, ça avance, cette équipe-là. La fenêtre est ouverte depuis longtemps. Puis là, peut-être que Brad Treliving va avoir fermé la fenêtre sur le bout de ses doigts avec tout ce qui vient de se passer, puis tout ça, puis que Marner ne soit pas sous contrat.
Tu veux pas te fermer une fenêtre sur le bout des doigts, ça fait mal.
Ça fait mal, c'est ça. Donc, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal pour les gens de Toronto, mais bon, on va suivre. On est encore loin de tout ça. Il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. JF, Guillaume, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur le balado.
Toujours un plaisir.
On va vous laisser partir. Comme on a dit, JF, c'est une grosse journée au niveau entrevue. Guillaume, tu nous prépares une coupe de texte de recrues, hein? Préparer le repêchage puis tout ça, si je me trompe pas.
Oui, un petit texte sur le gardien Jack Ivankovic, un des meilleurs espoirs devant le filet. Et puis, vendredi, je vais le dire parce que, tu sais, on place des choses dans l'univers et ça va nous revenir. Là, c'est la mentalité de Caleb Desnoyers. Donc, vendredi, je suis supposé parler avec Jacob Pelletier.
Ah, mais je pense qu'on a commencé une négociation en 2021 pour parler à Jacob Pelletier.
Ça devrait se produire. Donc là, je lance ça dans l'univers, puis on verra. Allez faire un tour sur notre site en fin de semaine. Si jamais il y a un texte sur Jacob Pelletier, ben vous saurez que ça a fonctionné finalement.
Puis Jacob Pelletier est un bon jeune garçon. Là. C'est vraiment pas... Le problème vient pas du joueur.
Le timing n'est pas toujours bon, pas par rapport
exact.
À lui. Voilà, on va dire de la façon suivante. Merci les gars d'avoir été là, chers auditeurs. Ben écoutez, suivez-nous un peu partout, lnh.com, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Faites une recherche, vous allez nous trouver. Abonnez-vous au balado pour être certain de ne jamais manquer le moindre épisode. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.